Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Mais bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Voilà, alors, cette semaine, nous allons prendre un livre de Pierre Michon. Alors, on avait déjà vu les deux, La Grande Bonne de Pierre Michon. Alors là, c'est édité par Folio, donc en 2005, et c'est Gallimard, d'après les éditions Verdier, en 2023. Alors, la quatrième de couverture, toujours intéressante. Au début des années 1960, Pierre est nommé instituteur dans un village du Périgord, tout près de Lascaux. Son premier poste, derrière le rideau gris des pluies de septembre, entre deux dictées, l'homme s'abandonne aux rêves les plus violents. Caïx crée trouble depuis qu'il s'était pris d'Yvonne, la belle buraliste. En elle réside la brûlure du désir, tout le mystère de la différence des sexes et l'origine du monde, bien entendu. Alors, il y a, pour Pierre Michon, je dirais que Pierre Michon est né en 1945 dans la Creuse. Son premier texte paraît lorsqu'il a 39 ans. Après quelques années consacrées aux études littéraires et au théâtre, il est l'auteur de nombreux livres parus principalement aux éditions Gallimard et aux éditions Verdier, tels dont La vie minuscule, Rimbaud, le fils et les onze, et le prix France Kafka et le prix de la BNF lui ont été décernés pour l'ensemble de son œuvre. Voilà, alors on va aborder un peu ces deux bonnes, hein, parce qu'en réalité, bon, il y a la Grande Bonne qui part du côté en Dordogne de Saint-Geniès, pas très loin de Sarlat, et donc c'est la Grande Bonne qui fait quand même quelques kilomètres et qui va jusqu'aux Aizis. Puis ensuite, il y a la Petite Bonne qui prend sa source du côté du château de Puymartin. Et qui rejoint la Grande Bonne quelques kilomètres plus loin. Les deux, bien sûr, comme je disais à l'instant, vont se jeter dans la Vézère, et c'est un cuir d'eau. Alors, les bonnes, bon, ça veut dire ruisseau. Une bonne, c'est un ruisseau en Languedoc, voilà. Alors, bien sûr, ces deux bonnes sont poissonneuses. Je me souviens y avoir été quelques fois à la pêche et avoir attrapé quelques gardons, voilà. Mais il y a toujours de l'eau. Donc on va prendre, bien sûr, ce livre de Pierre Michon, Les deux bonnes. Alors voilà ce qu'on nous dit. Entre les Martres et Saint-Amand-le-Petit, il y a le bourg de Castelnau. Sur la Grande Bonne, c'est à Castelnau que je fus nommé en 1961. Les diables sont nommés aussi, je suppose, dans les cercles du bas. Et de galipette en galipette, ils progressent vers le trou de l'entonnoir comme nous glissons vers la retraite. Je n'étais pas encore tombé tout à fait, c'était mon premier poste. J'avais 20 ans. Il n'y a pas de gare à Castelnau, c'est perdu. Les autobus partis le matin de Brive ou de Périgueux vous y larguent fort tard en bout de journée. J'y arrivais la nuit, passablement ahuri, au milieu d'un galop de pluie de septembre, cabré contre les phares dans le battement des grands essuie-glaces. Je ne vis rien du village. La pluie était noire. Je pris pension chez Hélène, qui est l'unique hôtel sur la lèvre de la falaise, en bas de quoi coule la Bonne. La Grande, oui, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a la Grande Bonne et la Petite Bonne. Je ne vis pas davantage la Bonne ce soir-là, mais par la fenêtre de ma chambre, en me penchant sur du noir plus opaque, je devinais derrière l'auberge un trou. On descendait par trois marches à la salle commune. Alors là, on est dans la maison. Elle était enduite au badigeon sang de bœuf, qu'on appelait naguère rouge antique. Ça sentait le salpêtre, quelques buveurs assis parlaient haut. Entre des silences, des coups de fusil et de pêche à la ligne. Ils bougeaient un peu de lumière qui leur faisait des ombres sur les murs. Vous leviez les yeux et par-dessus du comptoir, renard empaillé, vous contemplez. Sa tête aiguë, violemment tournant vers vous, mais son corps comme courant le long du mur, fuyait la nuit. L'œil de la bête, les murs rouges, le parler rude de ces gens, leurs propos archaïques, tout me transporta vers un passé indéfini qui me donna pas de plaisir. Mais un vague effroi qui s'ajoutait à celui de devoir bientôt affronter des élèves. Ce passé me parut d'un avenir, ces pêcheurs louches, ces passeurs qui m'embarquaient sur leur méchant rafio, la vie adulte et qui, au milieu de l'eau, allaient me détrousser, me jeter par le fort, ricanant dans le noir, dans leur barbe sans jage, leur mauvais patois, puis accroupis au bord de l'eau, sans un mot, ils écaillaient de grands poissons. Alors je dirais que dans les années 60, à l'école, les enfants étaient quand même peut-être plus sages que maintenant. Voilà, alors, donc je reprends ma lecture. Les eaux confuses de septembre, français au carreau, Hélène était vieille et massive comme la Sibylle. D'écume, elle réfléchit et de même attifée de belles guenilles coiffées d'un fichu roulé, son bras à la main, relevé, essuyait la table devant moi, ses gestes humbles rayonnaient d'orgueil, d'une joie silencieuse. Je me demandais quelle aventure l'avait mise à la tête de cette taverne rouge, sur quoi régnait par-dessus d'elle un renard. Je lui demandais à dîner, et s'excusa modestement, que ses fourneaux éteints, que son grand âge, et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent au corps de pèlerins et de gendarmes, avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée, malheureusement. Alors, à la traverse d'un guet tout noir et plein de larmes, alors du vin là-dessus, un gros verre pour affronter mieux les lames, je mangeais ces charcutailles de haute époque. À la table voisine, les propos se faisaient rares, les têtes se rapprochaient alourdies par le sommeil ou le souvenir de bêtes descendues en plein bord, mourant. Ces hommes étaient jeunes, leur sommeil, leur chasse étaient vieux comme les fabliaux, mais brillants, valaques, à la fin coiffèrent leurs bonnets et furent debout dans leur ciré de noir d'encre, dont les plis cassés brillaient, s'éloignèrent bravement vers leur besogne obscure de passeurs, de dormeurs. L'un d'eux avait par-dessus cette côte nocturne étoilé un visage aigu qu'il tourna vers moi. Il me fit un sourire complice ou apitoyé dans lequel jaillirent des dents blanches. On entendit démarrer des mobilettes. La nuit, par la porte restée ouverte, était trouble, immobile. La pluie gagnait d'ailleurs, et il y avait du brouillard maintenant. « C'est Jean le pêcheur, » dit Hélène, avec un mouvement de la tête vers ce brouillard où dételaient les moteurs grêles. Son geste était si vague qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait, ses rides dans ce sourire s'ordonnaient à merveille. Elle ferma la porte, tripota des interrupteurs. Tout s'éteignit. Me levant, je dormais déjà. J'étais n'importe où dans ce pays où les renards passent dans les rêves et au cœur du brouillard des poissons. On ne voit pas et sortent hors de l'eau et retombent avec un brumat au fin fond de la Dordogne sans lire nulle part en Malaquie. Alors je vais continuer un peu ce récit. Là c'était la grande bonne, donc on va prendre maintenant la petite bonne. Donc la seconde partie de ce récit. Alors donc, on va retrouver notre héros, notre instituteur. Alors il m'arrivait de regarder Jean jusqu'au vertige, quand aux heures tardives, il dodelinait sous son rhum, sombrait doucement dans cette médecine nocturne. Je savais tout de lui, il avait une mère parfaite, et il allait la nuit sur les bonnes. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a deux bonnes, il y a la grande et la petite. C'était un pêcheur, n'est-ce pas? C'était là ce qu'il avait trouvé, et comme tel, on le connaissait au Martre, à Saint-Amand, et jusqu'à Saint-Nom, en aval, comme tonneur, en amont, c'est-à-dire aussi loin que les rivières allaient leur train, sans pour autant cesser d'être ici, aussi loin qu'en quelques journées de marche on pouvait atteindre, sans devoir renouveler la provision d'asticots, de mouches, de fil plombé, la provision qui rapetisse au fil des heures et le soir du deuxième jour ou le matin du troisième est épuisé. Quand on a largué tout ce petit bataclan dans la gueule des truites intétrables, la plus grande gueule du grand brochet qui depuis les origines de la pêche digère en se riant de tout hameçon ou os ou un acier trempé interdit qu'on poursuive la pêche se fait et le grand maître de la pêche, il est intraitable, objet de la défense expressive, c'est-à-dire la loi. Ou encore quand on a tout laissé, le filet amorce dans les branches basses des sols, et ça arrive, je suis un pêcheur, à des temps et des fois il y a des arbres qui sont à peu près de l'eau. Bon. Alors je reprends la lecture car tout Jean, le pêcheur, qu'on soit, rentre son cou comme un autre, eh oui. Et parce que les sols, peut-être, prennent ombrage de tout ce micmac, sous eux, ils ont commerce avec le grand brochet. Comme tel, on connaissait Jean, un rigolo qui dormait peu, et à la place de dormir, regardait l'eau couler, suivait l'eau qui coulait, et dans tout ce qui coulait, jetait un petit morceau de civilisation. Le bouchon que rien emporte, un son infime qui déchire, et qui, pour cette raison, est la civilisation toute pure que la truite vérifie à pleine mâchoire, et comme tous les rigolos, il était un peu flibustier, mais pas trop, un peu hors la loi, jouant entre les mailles du filet de la loi, comme une vieille écrevisse rusée, entre celles du filet de chambre. Alors, il aura bien sûr quelques démêlés avec la police, enfin bon, ça s'arrangera, de toute façon. Voilà, en bon pêcheur, je peux le dire, voilà. Alors, je poursuis un peu cette lecture, je savais tout de gens, ce n'était pas sorcier, même le grand trident, ce n'était pas sorcier. Et même quand il n'était pas sur les ruisseaux, ni chez Hélène, quand donc là-bas, à mi-pente de la falaise rouillée, près de la grange énorme, dans l'odeur des betteraves cuisant, il se donnait un alibi, faisait semblant d'avoir un métier. Même la mâche et Jean-Jean, j'imaginais ce qu'il faisait hors de son alibi, hors de ce statut de garçon de ferme qui apparaissait sur sa carte de pêche et ne lui pesait pas plus dans sa besace que la carte de pêche. Voilà. Bon, ben, c'est facile de se trouver un métier. Je l'imaginais bien, de toute façon, je l'avais vu, il bêchait sous les hortensias bleues, en hiver sous les tiges cuites dont il savait qu'à l'été, elle porterait des hortensias bleues sous le vent. Et de cette terre à fleurs, il sortait des vers qu'il mettait dans une boîte de lait gigose. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le lait gigose, mais pour les enfants, c'était bon. Alors, cette boîte, bien sûr, en allumate, pleine de terreau, de marc de café, percée ça et là, avec un clou pour que ce fût aéré qui grouillait dedans, et avec dégoût et bonheur, et truffé des charognes pour les écrobisses. Et oui, les écrobisses se pêchent avec de la charogne, avec des balances. Voilà, c'est une pêche que je ne connais pas, mais en fait, ce qui se pratique peut-être plus maintenant. Dans tout cela, sans sorcellerie, quoi qu'il eût remis alors l'unique plume de sachem invisible, souveraine, qu'on porte sous le regard du grand insurgeant, et sans doute le sourire de guerre, et cet appareil de la plupart du temps, quand la boîte de gigose prête était dans la musette. Il allait chercher la clé dans une cage de la grange et sortait une ligne de la pentine maillée, plombée, montée à des hameçons de 8, l'empile de liaison, pour le brocher, se faisant une prière à sa façon, assis dans la courette, était sur les bains, convoqué le brocher qui, la veille à tel endroit, lui avait emporté 3 lignes et autant d'hameçons de 8. S'entretenait avec lui, comme toujours, les hommes s'entretiennent avec ceux qui voulurent et n'eurent pas en tout lieu et en toute façon près des bassins de Versailles, comme sur la Bézère jadis à Lascaux. Alors pour la Bézère, bon, j'ajouterais que pendant la dernière guerre, ben, ce sont des anamites qui se sont trouvés, en Dordogne sans pouvoir repartir dans leur pays d'origine et qui ont nettoyé quand même toutes ces rivières. Alors, l'illustration, journal de l'époque, je crois, dans au moins un numéro, sous la plume d'Albéric Cahuet, a donné quand même, une relation à cette aventure que connurent les anamites de l'époque. Voilà. Alors, donc, il ne reste plus, il n'y a plus de baraquement, mais si vous allez sur Bergerac, avant d'arriver dans la ville, sur la droite, il y a des petits bâtiments qui ont servi, bien sûr, pour d'hôtel, en quelque sorte, pour ces gens-là. Voilà, alors, on va reprendre un tout petit peu la lecture. Voilà, la Canadienne, parmi les odeurs de feuilles, avait un peu les moins d'Yvonne, son parfum. Sa peau, on se rappelle qu'il était amoureux, qu'il est tombé amoureux d'Yvonne. Son parfum, sa peau, Jean-Jean se mettait à rire en silence. Alors, je dois mettre ici un bémol et mentionner des on-dit auxquels je ne pouvais ni ne voulais ajouter foi. L'hypothèse avait été avancée qu'il y aurait bien eu des peintures derrière la jaune dire. Alors, la jaune dire, c'est un tracteur. Avant que le temps de la jaune dire, elle n'en parlait jamais et personne n'abordait le sujet. Le premier à le faire fut un des passeurs, un garçon de ferme nommé Gustave, que parfois Jean-Jean prenait à la journée, carburé au rouge, était herculéen et très doux. Une nuit qu'à l'auberge, il avait un peu forcé la dose, ce qui le rendait rêveur et sentimental, et que j'avais écouté d'une oreille distraite ses souvenirs. Il fixa longtemps le renard empaillé, il était au bord des larmes, il dit « c'était peint là-bas, c'était beau ». Voilà. Alors, j'en ai terminé pour aujourd'hui, et puis je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.